peut-être appeler une opération de paix. À un moment ou un autre, les opérations en Afghanistan et en Irak ont été appelées peacekeeping par certains gouvernements, qui est évidemment une façon de définir le peacekeeping à la maison de la paix qui se distingue ou se distingue beaucoup de la définition classique, pardon, des opérations de paix. Ça ne fonctionne pas.
J'espère que vous avez bien mentionné. Donc, qu'est-ce que je disais? La division classique, donc, qui définit les missions de paix, de maintien de la paix, comme étant des missions entre deux États ou deux belligérants, qui sont des missions impartiales, où le consentement des parties est nécessaire et où l'utilisation de la force est limitée. Ce qui nous amène à la contre-insurrection, aux opérations counter-insurgency. C'est pour ça qu'on utilise COIN pour faire un cours. Ça n'exclut pas les opérations de paix. La grande distinction ici, c'est la désignation d'un ennemi. Ça, c'est pas moi qui fais le mieux. Je vais m'en parler. Donc, dans le vocable populaire, évidemment, la contre-insurrection, c'est souvent associé à la guerre dite irrégulière. Aujourd'hui, on en parle surtout d'une manière dite classique, c'est-à-dire on parle beaucoup de gagner les cœurs et les esprits. C'est une approche donc qui est centrée non pas seulement sur la désignation d'un ennemi, qui est centrée sur la population. C'est un peu, disons, une approche qui cherche à se distinguer de la contre-insurrection d'un point de vue historique, qui elle était très très violente évidemment, qui utilisait des techniques dites de pacification, de destruction de l'ennemi, et même l'utilisation de la terreur dans ces opérations. Donc, juste sans vouloir vous ennuyer trop, mais pour discuter un peu de l'évolution des deux concepts, l'évolution de la pratique en même temps, on peut aller très rapidement sur pourquoi, en fait, dans les années 90, les deux concepts, en fait, n'étaient pas nécessairement associés ou très marginalement. D'abord, le contexte de 1990, c'est un contexte normatif post-guerre froide, le fameux nouvel ordre mondial de M. Bush, notamment, où essentiellement, justement, les opérations de guerre et le maintien de la paix sont bien distincts. Le contrôle, la protection du territoire de la population, notamment, ne sont pas considérés comme une tâche des opérations de paix ou du maintien de la paix, alors que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On voit dans la contre-insurrection, certains y voient certainement une applicabilité limitée dans des contextes là, du fameux discours des nouvelles guerres, de New Wars, c'est-à-dire des guerres intra-étatiques et non entre États. Alors que certains y voient en fait la contre-insurrection comme un synonyme en fait de l'imposition de paix ou tous des discours sur la force robuste. Je dirais que ça commence à changer plus radicalement à partir de 1999, les interventions notamment au Kosovo et Timor oriental. C'est aussi le moment où on va voir apparaître les mandats de stabilisation et les discours sur l'aide à la puissance civile ou à l'État, si vous voulez, qui va apporter de plus en plus dans les discours et certainement dans les débats le parallèle avec la contre-insurrection. Le rapport Brahimi va mettre de l'avant justement la question du contrôle, la protection du territoire de la population qui vont devenir à partir de ce moment-là, évidemment par phase, une tâche des opérations de paix. Donc, qui va amener aussi toute la question de la construction étatique, le fameux state building, que malheureusement je ne peux pas parler, mais on pourra discuter tout à l'heure. Malgré tous ces changements qui s'opèrent relativement tranquillement, là je vais être trop rapidement, l'attention demeure orientée vers l'intervention humanitaire, la responsabilité de protéger, la protection des civils, etc. Je pense que ce qui change plus radicalement, certainement d'abord et avant tout dans les milieux militaires, c'est évidemment le 11 septembre, la Global War on Terror, la guerre contre le terrorisme, qui est un changement de contexte normatif significatif, où en fait, comme je disais, il y avait déjà une tendance, mais qui va être certainement concrétisée avec le 11 septembre, où maintenant le parallèle entre mission de paix et contre-insurrection est explicite, au minimum au niveau opérationnel. Donc, on va ressortir, surtout au niveau des les Américains et les Britanniques, même les Britanniques l'avaient fait dans les Balkans, mais on va ressortir les vues manuelles de contre-insurrection français, notamment. Roland Paris, l'Université d'Ottawa, en est un qui va, en fait, s'opposer vivement à cette comparaison-là entre entre guerre au terrorisme et contre-résurrection avec les opérations de paix, alors que d'autres, comme Fritz ici, vont démontrer les parallèles au niveau opérationnel. Donc, quel parallèle, justement, ce qu'on veut faire? Ici, je pense que c'est absolument nécessaire de distinguer les niveaux opérationnels du niveau politique ou stratégique, si vous voulez, politico-stratégique. Au niveau opérationnel, surtout si on parle d'un point de vue doctrine militaire, les parallèles sont évidents, notamment si on inclut dans la discussion tout ce qui tourne autour de la consolidation de la paix. On aime bien parler de maintien de la paix, de distinguer la consolidation. Peut-être que mes collègues praticiens seront en désaccord avec moi, mais dans les faits sur le terrain, moi, je ne vois pas toujours la différence. Il y a plusieurs, évidemment, entités onusiennes sur le terrain, mais les fameux casques bleus sont amenés de plus en plus, ou certainement ont été amenés de plus en plus à faire à peu près de tout, notamment de contribuer à la consolidation de la paix. Si vous regardez la théorie de la consolidation de la paix, ça se rapproche beaucoup, effectivement, de la contre-insurrection, c'est-à-dire une approche concentrée sur la population, sur reconstruire une société, etc. C'est tout le projet, en fait, que certains ont appelé la paix libérale. C'est au niveau politico-stratégique qu'on dit que la contre-insurrection et le maintien de la paix se distinguent. Et cette distinction-là est faite au niveau de l'impartialité. En théorie, sur papier, donc, les missions de maintien de la paix ou les opérations de maintien de la paix sont impartiales, alors que la contre-insurrection est historiquement une façon de faire qui désigne un ennemi notamment à détruire. Il y a un rapprochement qui va se faire, dont je vais discuter un moment, mais je vais d'abord identifier ou discuter très brièvement des trois facteurs qui, selon moi, ont rapproché les deux concepts, notamment, le 11 septembre, comme je le disais. Mais il y a d'abord, du point de vue des missions de paix, toute l'apparition, justement, et les discussions autour des mandats dits robustes. Donc, on s'éloigne, bon, on peut en discuter des détails, mais certainement, on recherche à redéfinir, comme il était dit ce matin, M. Unrecker parlait d'opérations de maintien de la paix qui maintenant s'orientent vers les combats ou qui devraient peut-être s'orienter vers les combats. Alors que historiquement, évidemment, c'est quelque chose qui n'était même pas discuté, mais on a définitivement donc une autre relation par rapport à la violence dans les discussions sur le maintien de la paix. Alors que de l'autre côté, on se rapproche, on peut dire, vers le centre, vers les missions de paix en contre-insurrection, alors qu'on mise sur ce qu'on peut appeler la version douce ou la version molle, c'est-à-dire celle qui exclut la destruction totale de l'ennemi. Mais qui se concentre surtout sur les questions de cœur et esprit et qui cible la population. Tout ça se rejoint, selon moi, justement, dans le rôle croissant des deux dans la construction étatique, surtout après le 11 septembre. Le maintien de la paix, la consolidation de la paix, selon plusieurs, et j'en suis un, s'oriente vraiment sur la construction étatique, on pourra en reparler plus tard. Et évidemment, un troisième facteur, c'est l'utilisation opportuniste qui a été faite du concept de peacekeeping, notamment justement dans les contextes afghans et irakiens. Je vois qu'il ne me reste pas grand temps pour parler du Mali. Ah, enfin, t'es gentil. Donc, mes conclusions se basent beaucoup sur justement ce que j'ai vu au Mali, notamment. On en parlait, j'en parlais d'ailleurs avec des gens du bureau malien de New York la semaine dernière. Et ce qu'on ressort, en fait, c'est surtout des questions pour vous qu'on peut discuter, pour nos amis ambassadeurs et praticiens et autres qui peut-être pourront nous donner leur opinion à ce niveau-là. Au niveau des opérations, bien d'abord, il semble avoir une tendance de changer le mandat au lieu de que justement les fameux casques bleus fassent de tout, de la protection des éléphants, comme on dit, jusqu'à la protection des enfants, du droit des femmes et des opérations de combat. Les mandats semblent vouloir se restreindre par phase ou du moins par priorité, avec un focus peut-être sur une meilleure articulation dans les relations civiles-militaires. Une chose qui est cependant, on dirait bien, acquise et qui, à quelque part, vient certainement d'un point de vue militaire, d'un point de vue contre-insurrectionnel, c'est les unités de renseignement. On ne peut pas opérer sur le terrain, sur le militaire, évidemment, sans renseignement. Et l'ONU a la MINUSMA au Mali a une composante purement dédiée à cette mission, c'est la CIFU, qui est composée justement des soldats européens qui ont fait leur retour justement dans les missions de paix. Et il y a une coordination limitée, mais bien réelle, avec la mission française Barkhane. Serval qui a été transformée en mission régionale Barkhane. On communique nos opérations parce qu'on ne veut pas se marcher sur les pieds. Et il y a un certain échange, bien que modeste, de renseignements à SIFU et les services français qui est construit sur le modèle de l'OTAN. Ce qui m'amène à ma question politique. Je pense à la question de l'utilisation de la force légitime et de la limite ou non qu'on devrait imposer à une force onusienne. Au niveau politique, au Mali, on peut voir très facilement certaines choses. D'abord, plusieurs difficultés à identifier les acteurs locaux. Ce que je veux dire par là, c'est, je peux poser la question de manière provocative, qui est un terroriste? Dans le nord Mali, c'est pas clair. C'est pas nouveau, on a vu ça au Sierra Leone, on a vu ça ailleurs, mais certainement, c'est facile pour les Français de dire qu'il y a des terroristes ici, mais on peut se poser la question à qui exactement ont-ils l'allégeance, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'un terroriste, traverser les frontières ou pas. Il y en a qui étaient des anciens ministres de la Défense qui font maintenant partie de groupes dits rebelles. Bon, à 5 heures le soir, une fois que la journée est terminée, des fois, on peut devenir tout d'un coup un terroriste. Je répondrai à vos questions d'ailleurs. Et si on retourne la question de côté, on peut demander aussi quel est l'impact d'une force contre-insurrectionnelle ou contre-terroriste qui est la force française sur la mission de la force onusienne. Est-ce que ça fait une impartialité? Parce qu'ici, si on parle aux Maliens, ça dépend à qui on parle évidemment, mais on va exprimer souvent justement certaines frustrations ou difficultés à pouvoir distinguer les actions de l'ONU de celles de la France. Donc, on va amalgamer à certains niveaux les deux. Bon, comme je dis, ça dépend à qui on parle. C'est pas unanime, évidemment. Mais on va associer parfois l'ONU justement aux intérêts français. Et là, ça dépend si les gens apprécient l'intervention de la France ou pas. Ça dépend si vous êtes au nord ou au sud, notamment. Ce qui m'amène évidemment aussi à la question donc de quel État à reconstruire ou construire au Mali, étant donné les difficultés que je viens de poser. Bamako, par exemple, à quelque part, est l'État, à un certain niveau, si je peux simplifier, mais ne représente pas nécessairement le Nord. Et pour terminer, pour conclure, Michel, je poserai aussi la question des effets de la dimension régionale sur la mission onusienne. Et l'impartialité, donc, ou l'impact sur l'impartialité de la mission de l'ONU. C'est-à-dire, la dimension régionale, je veux dire essentiellement deux choses. Je réfère à, un, évidemment, le déploiement français qui est maintenant régional. Serval était au Mali, Barkhane est maintenant régionalisé. À la région du G5 Sahel, un nouveau groupe. Et c'est G5 Sahel qui inclut le Tchad, Mauritanie, Mali, Burkina Faso et Niger. À l'exception du Mali, tous ont contribué et contribuent de façon significative, notamment le Tchad et le Niger, à la mission de l'UNUSMA. Donc, je vous laisse tirer vos propres conclusions. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Merci.